Alors, on va ouvrir ensemble notre Bible dans le livre des rois, parce que nous sommes arrivés au cinquième point. Quel beau temps ce matin! J'ai besoin de toute votre concentration pour la méditation de la parole, et il y a une pensée de Dieu. Vous avez peut-être déjà suivi le début de cette série. Nous sommes arrivés au cinquième, ça veut dire qu'il y a eu quatre dimanches avant. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu? On avait commencé avec Élie, lorsque, dès le début, cet homme s'est engagé. S'est engagé avec un roi pourtant impie, terrible, qui est le roi Acab, sa femme Jézabel. Et il a mis toute sa confiance à Dieu et a dépendu de Dieu, même à Kérit, ce torrent où Dieu lui donnait chaque jour juste ce qu'il fallait en eau et les corbeaux faisaient la livraison express de ce qu'ils trouvaient dans le chemin. Et Élie apprenait à dire « Seigneur, je te remercie ». Et je te fais confiance pour demain. Quelle dépendance de Dieu. On a vu ensuite, le dimanche d'après, combien des fois Dieu nous met des tests. C'est vraiment une épreuve. Ça va jusqu'au creuset, à l'endroit où on est épuré, comme à Sarepta. C'est ce que ça veut dire en hébreu. Et Élie a été testé pour voir s'il était prêt, dans tous les aspects de sa vie, à mettre Dieu en premier. Mon engagement et mes priorités à Sarepta. Et cette veuve, d'ailleurs, va être bénie. Parce qu'elle va faire... Elle va servir Dieu en premier et Dieu, qui est infiniment bon, lui donnera beaucoup plus. Sers Dieu en premier, tu verras sa bénédiction. On a vu mon engagement face aux critiques, aux rejets. Élie avait supporté l'épreuve qui venait de ce manque de nourriture, de ce manque d'eau. Mais il y avait une épreuve peut-être qui lui a fait encore plus mal. C'est lorsque l'enfant de cette femme chez qui il était, s'est arrêté de vivre. Et Élie a dû supporter cette femme qui était en très grande colère contre Dieu et donc contre Élie. Et il a dû accepter la critique et le rejet et comment réagir. Quel homme de Dieu, rempli de douceur, il a été présent, il ne s'est pas dérobé et il a porté l'enfant devant Dieu. Il a fait tout ce qu'il a pu et Dieu, ce jour-là, a décidé d'agir. Ça lui a demandé énormément de courage, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais vu jusqu'à présent. Mais Dieu a décidé d'intervenir pour cet enfant, pour sa maman et pour Élie. De même, la critique par Abdias, qui était pourtant un collègue, on va dire aujourd'hui un chrétien, des fois les critiques les plus difficiles à supporter sont celles de tes proches, sont celles des personnes que tu penses normalement qui devraient t'aider. Et c'est là où ça fait des fois très mal au cœur. Mais il a su passer au-dessus et on s'était quitté pour terminer. Avec le Carmel, mon engagement implique de prendre des risques. Et face à 450 prophètes en transe, complètement possédés, Élie s'est mis debout sur la montagne et a dit « Choisissez qui vous voulez suivre. Soit l'Éternel est Dieu et vous choisissez Dieu, soit c'est Baal et choisissez Baal. Mais arrêtez de marcher des deux côtés. » Et ce matin, on arrive au cinquième point, mon engagement et ma vie de prière. Mon engagement et ma vie de prière. On va prendre 1 Roi 18. Vous vous rappelez le verset premier, je vous relis le verset premier. Bien des jours s'écoulèrent au cours de la troisième année de sécheresse. L'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes. Va trouver Acab, je ferai pleuvoir sur ce pays. Et c'est après qu'a lieu le Carmel, d'accord? Donc, j'ai besoin de tourner la page, je ne sais pas comment c'est dans votre Bible, et on est toujours au chapitre 18, mais on passe au verset 41. Je sais qu'on a encore de bonne heure ce matin. Mais imaginez avoir passé une journée épuisante. Parce que là, on fait un saut, mais si on veut se mettre dans la tête, dans le corps de Élie à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé pendant toute la journée? Dès le matin, il a convoqué tous les prophètes et tout Israël. Et là, il a attendu jusqu'à midi, vous vous rappelez, avoir leur transe, leur danse, etc. Il est épuisé. Ils n'ont pas bu, ils n'ont pas mangé. Ensuite, arrivé le temps de l'après-midi où il a dit, Dieu, si c'est toi qui es Dieu, fais descendre le feu sur l'autel. Vous imaginez tout le stress, toutes les émotions, toutes les choses qu'il a vécues. Tout ça, ça s'est passé. Et on est maintenant en soirée. Lorsque j'arrive au verset 41, il est dit. Ensuite, Élie dit à Achab, allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. Achab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait sur le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Il dit à son jeune serviteur, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, scruta l'horizon et revint dire, je ne vois rien. Élie l'envoya 7 fois pour regarder. À la 7e fois, le serviteur annonça, je vois un petit nuage qui s'élève de la mer, il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Alors Élie ordonna, va dire à Achab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. Déjà, de tous côtés, le ciel s'obscurcissait d'épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel, rempli de force par l'Éternel. Élie serra sa ceinture autour de ses reins et courut devant le char d'Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Est-ce que Dieu a dans cette salle des hommes et des femmes de prière qui, lorsqu'ils intercèdent, lorsqu'ils se placent devant Dieu, le ciel peut s'ouvrir? On va prier ensemble. Seigneur, je te demande que cette méditation soit ointe par ton Saint-Esprit. On veut vraiment qu'il y ait une parole de Dieu, non pas des pensées humaines. Seigneur, elles peuvent être bonnes, on peut avoir quelques conseils, mais je voudrais que ça soit des pensées de Dieu et des conseils de Dieu. Seigneur, ton cœur et ta philosophie, ta pensée, c'est notre priorité. Seigneur, viens, remplis-nous du Saint-Esprit pour comprendre ce que tu veux nous dire en cet instant. Au nom de Jésus, amen. Amen. Jacques dit à propos d'Élie, Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau et le ciel redonna la pluie et la terre produisit ses récoltes. Élie était un homme tout à fait semblable à toi, à ton conjoint, à tes enfants, à tes parents. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie. Puis il pria de nouveau et le ciel redonna la pluie. Alors, moi, je voudrais vous poser une question parce qu'on est habitué, nous, dans les églises, à entendre des méditations qui parlent de la prière, mais qui ne changent pas forcément, d'ailleurs, nos habitudes. Parce qu'on est plein de bonnes résolutions. Et il y a des questions simples finalement, on évite de se poser. Moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment important de prier? Premier point que je veux voir avec vous, c'est pourquoi prier? C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Le pasteur vous dit, priez. La Bible vous dit, priez sans cesse. Faites monter vers Dieu des prières et des supplications constamment. D'accord, mais pourquoi on le fait? Est-ce qu'au fond, pourquoi vous le faites? Vous le faites parce qu'on vous a demandé de prier? Quelle est la raison pour laquelle vous priez? Et je pense que dès là, dès ce point-là, il y a peut-être une erreur que l'on fait. Parce que dans la plupart de mes prières, je ne vais pas vous accuser vous, je vais m'accuser moi. Dans la plupart de mes prières, c'est comme je prie pour que ça puisse changer le cours des circonstances. Ça, en cela, c'est pas mal. Mais c'est presque avec l'idée de dire ma prière va faire... va réorganiser l'intervention de Dieu. Ma prière va peut-être changer ce qui était prévu par Dieu. Ma prière va influer, va bouger des choses. Alors, il y a des choses vraies dedans. Il y a des aspects vrais, mais il y a aussi une ligne sur laquelle on peut vite franchir. Une ligne sur laquelle on peut glisser de l'autre côté. La prière de Élie, elle est dans quel sens? Premièrement, pourquoi prier? Pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. La première chose que Jésus dit, lorsque tu pries, regardez comment il faut prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est la première chose. Et moi, je l'oublie des fois. C'est-à-dire que mon attitude en prière, lorsque je me mets à prier, la première chose que je dois demander à Dieu, c'est Seigneur, c'est sur ta volonté que je dois m'appuyer pour prier. Si vous commencez à prier pour des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, vous allez vous brûler, vous allez vous épuiser, vous allez crier, vous allez pleurer, vous allez être fâché contre Dieu et Dieu ne bougera pas forcément. La première des choses lorsque je me mets à prier, c'est Seigneur. Déjà, j'élève ma prière ce matin, mais je t'en supplie, protège ma bouche, protège mes pensées et aligne-les avec ta volonté. Parce que je n'ai pas les moyens, déjà, je ne prie pas assez. Mais si en plus je perds du temps de prière pour prier pour des trucs, des choses qui sont secondaires, qui ne sont pas dans ton plan, je ne vais pas tenir longtemps. Et Élie pria, pourquoi ? Il pria et il dit, regarde, dès le début, dès le verset 41, Élie donc, dit à Achab, allez, va manger, boire, j'entends le grondement qui annonce l'averse. Achab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Il va pour prier. Et il prie parce qu'il sait. Et comprends ça ce matin. Il sait que Dieu a dit que la pluie allait venir. Ça vous aide pour prier. On dit que Élie est un héros parce que la pluie vient. Mais pourquoi elle vient la pluie ? Parce que Élie et Dieu sont des coéquipiers. Parce que Élie dit à Dieu, je suis dans ton équipe, c'est toi le patron, c'est toi le chef et moi je m'aligne en dessous de toi. Tu as dit au verset 1er du chapitre 18, va trouver Achab, j'envoie la pluie. Seigneur, c'est sur ta parole que je m'appuie pour prier. Je suis là ce matin pour te dire, Seigneur, que ta volonté soit faite et pour que ma prière soit exaucée, je veux m'aligner avec ce que tu veux dans ma vie. Je veux m'aligner avec ce que tu veux dans le choix du conjoint. Je veux m'aligner avec ce que tu veux par rapport à mes études. Je veux m'aligner avec ce que tu veux par rapport à mon travail. Je veux m'aligner avec ce que tu veux si je dois changer d'appartement ou pas. Je veux être aligné avec toi. Vous n'avez pas de temps à perdre à prier pour des choses que Dieu ne veut pas vous donner. La parole de Dieu, elle est solide, elle est vraie et regardez aussi, c'est étonnant, mais quand tu te mets pour prier, il avait prié 3 ans et demi avant et il y avait eu l'absence de pluie, sécheresse. Et il reprit et Dieu permet que la pluie vienne. Je suis content pour Élie parce que Dieu l'a prévenu. Mais des fois, Dieu ne vous prévient pas quand il fait les choses. Mais pour des choses très très importantes de votre vie, souvent, Dieu ne vous dit pas tous les détails. Mais il vous donne quelques aspects, quelques brides. Je pense que ça vous est déjà arrivé. C'est vous sentez, et c'est pour ça que Élie dit à Achab, la pluie vient, Dieu me l'a dit. Il a un tout petit temps d'avance sur Achab. Il a combien de temps d'avance sur Achab ? Il a une journée d'avance sur Achab, c'est tout. Mais ce n'est pas toujours le cas dans ma vie, et c'est pour ça qu'il faut que je sois prêt. Parce que pendant 3 ans et demi, il a rêvé qu'il y ait de la pluie, et pendant 3 ans et demi, il ne s'est rien passé, et ce jour-là, il faut être prêt. Ce matin-là, quand il va au Carmel, il faut être prêt parce que la pluie arrive. Vous savez, aussi, c'est quelque chose d'important dans vos prières. Qu'est-ce qui serait passé si Élie avait prié pendant 3 ans et demi que la pluie vienne ? Il aurait perdu son temps. Est-ce que vous comprenez ça ? Pendant 3 ans et demi, s'il s'était mis à prier tous les jours pour qu'il y ait la pluie, il aurait perdu son temps. C'est quelque chose de très anti-pentecôtiste évangélique, ce que je dis là. Parce que, vous voyez, pendant 3 ans et demi, Dieu ne lui demandait pas de prier pour qu'il y ait de la pluie. Il aurait voulu qu'il y ait de la pluie. Mais le plan de Dieu n'était pas de pluie pendant 3 ans et demi. Donc si pendant 3 ans et demi, vous faites le calcul, ça fait plus de 1000 matins. Il aurait pu passer 1000 matins sur ses genoux et dire, « Seigneur, la pluie pour aujourd'hui. » Et Dieu n'aurait pas donné la pluie. Parce que Dieu avait prévu un temps de 3 ans et demi. Est-ce que tu sais qu'il y a des saisons dans ta vie ? Dieu est le Dieu des saisons. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'étonnant parce que Dieu permet qu'il y ait des saisons d'épreuves pour lesquelles tu n'as pas forcément été extrêmement préparé et pour lesquelles tu vas être tout simplement, il faut endurer l'épreuve. Soyez persévérant. Alors, si tu dois prier Élie pendant ces 3 ans et demi, pourquoi tu dois prier ? Tu dois prier pour dire, Seigneur, donne-moi la force aujourd'hui de supporter la sécheresse. C'est la seule prière qui est bonne pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, la seule prière que Dieu a pour ta vie, c'est « Tiens bon, si tu pries pour que je te donne des forces, je t'en donnerai encore aujourd'hui. Si tu pries pour qu'il y ait des corbeaux qui viennent, je te donnerai encore des corbeaux. Mais Seigneur, je préférerais récupérer directement l'eau du ciel. Mais ce n'est pas mon temps. Alors ne perds pas de temps à prier pour des choses que je n'ai pas prévu de te donner maintenant. » Je suis désolé, c'est peut-être un peu direct ce matin, mais On a des fois besoin d'entendre ces choses-là. Je voudrais vous dire aussi, par rapport aux promesses de Dieu et dans cette idée de pourquoi prier. Prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Prier pour coopérer avec Dieu. Vous ne pouvez pas coopérer avec Dieu si vous ne comprenez pas bien quels sont ses plans. Vous ne pouvez pas coopérer avec Dieu si vous ne comprenez pas sa promesse. C'est quoi la promesse de Dieu? C'est que la pluie vient. La promesse, elle est pour qui? Elle est pour Élie d'abord. Dieu a parlé à Élie, et deuxièmement, la promesse, elle est après pour Israël et pour Akab. Donc ça concerne toutes ces personnes-là qui vont donc être arrosées. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer, parce qu'ils vont se faire tremper. Mais vous voyez, mon défaut, quand j'ouvre la Bible, et ton défaut peut-être des fois, c'est de chercher à trouver des promesses de Dieu que tu vas sortir du contexte. Tu vas dire, « Oh, j'ai lu dans la parole de Dieu ce matin que... » Vous allez prendre la promesse, vous allez la sortir du contexte et vous allez dire, « Elle est pour moi, je la revendique. » Peut-être, mais est-ce que tu es sûr que c'était pour toi? Est-ce que tu es sûr que c'était pour toi? Parce que je dois te dire qu'il y a, allez, je vais dire, 8 types de promesses de Dieu dans la Bible. Et à chaque fois, c'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de chrétiens abandonnent parce qu'ils disent, Dieu, je ne comprends pas, tu m'as trompé. Or, si tu es Dieu, comment peux-tu me tromper? Ça veut dire que tu n'existes pas. Et voilà, comme ça, ils perdent la foi. La parole de Dieu est vraie. Donc, s'il ne se passe pas la parole de Dieu, c'est que j'ai peut-être à me remettre en question plutôt que d'accuser Dieu. La première type deux types de promesses, il y a des promesses qui sont universelles et il y a des promesses qui sont personnelles. La semaine dernière, il a prêché sur Jéricho, mon collègue Laurent, d'accord? Vous êtes allé faire un tour de Jéricho? Est-ce que vous pensez que c'est votre boulot d'aller faire le tour de Jéricho et que la muraille va s'effondrer? Non, parce que si un chrétien non affermi prend dit, Seigneur, devant la ville de Jéricho, tu nous as dit qu'on devait tourner 7 fois avec les trompettes et bing, 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 et ça va tomber. Alors tu vas faire le tour de Carcassonne, les remparts, là. Nom de Jésus, il ne se passera rien à Carcassonne. Dieu ne va pas faire tomber les remparts. Alors ça vous paraît évident. Pourquoi? Parce que c'est pas la promesse, elle était personnelle. C'était une promesse qui était pour uniquement Josué. C'était pas pour Yvan, c'était pour Josué. Il y a des promesses de Dieu dans la Bible, je suis désolé de vous le dire, elles ne sont pas pour vous. Ou bien elles ne sont pas pour vous à ce moment-là, parce que votre vie et vos circonstances ne correspondent pas à cette promesse de Dieu. Alors qu'à l'inverse, il y a des promesses qui sont universelles. Quelles sont des promesses universelles? Vous en connaissez des promesses universelles ou Dieu qui sont valables pour tous? Moi, je vais vous en donner quelques-unes. Ou ces promesses-là, vous pouvez vous appuyer, c'est du béton. Il n'y a pas de risque. Moi, par exemple, quand la Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. » Vous savez pas quoi? C'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi. Là, il n'y a pas de différence. Il y a énormément de promesses de Jésus ou de qui ont été marquées dans les psaumes qui sont bonnes. Quand il est dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » C'est un général, vous voyez, c'est pour toi, c'est pour moi. Il y a des promesses comme « Ne crains rien, je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ça, c'est des caractéristiques de Dieu. Et Dieu le fait toujours. Et c'est vrai pour toute personne, homme, femme, sur la terre. Il y a des promesses comme « Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ça, c'est Jésus qui le dit à une foule de disciples. À une foule de... Il y a des milliers de personnes en face. Et il leur dit ça parce que c'est un principe général. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des promesses qui sont non seulement personnelles ou universelles, mais il y a un deuxième critère. Est-ce que la promesse, elle est conditionnelle ou inconditionnelle? Il y a des promesses de Dieu que Dieu nous donne à condition que. Il y a des promesses que Dieu donne et qui sont sans condition. Quand Élie est là ce jour au Carmel, c'est une promesse sans condition. Dieu dit, va trouver Akab, il y aura de la pluie ce soir, point. Dieu dit pas, il y aura de la pluie si le peuple se repent. Dieu savait, Dieu avait tout prévu et c'était sans condition ce jour-là. Mais il y a des promesses qui sont avec des conditions. Et vous n'avez pas toujours le droit de les prendre si vous ne remplissez pas les conditions. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand on dit, c'est un peu dur hein, ce que je vais dire aussi, mais c'est la parole. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Qu'est-ce que j'aimais bien ce texte quand j'étais petit. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors je me dis, ben, il suffit de mettre Dieu à l'épreuve. Dieu, je te lance un défi. Ouvre sur moi les écluses des cieux. Fais tomber ta bénédiction dans ma vie. Mais quand tu lis le verset qui vient avant, tu te rends compte que peut-être une explication pourquoi les écluses restent fermées des fois. Parce que les versets d'avant sont très clairs. Il dit, vous priez, vous ne recevez pas, parce que je vous vois, et vous n'êtes pas du tout généreux. Et Dieu leur donne une leçon, et il dit, voilà, vous retenez vos offrandes, vous retenez vos dîmes, vous êtes méchants avec les pauvres, etc. Et sachez que si vous me mettez à l'épreuve, c'est-à-dire que vous corrigez vos voies, si vous mettez en premier, alors moi je ferai mon job. Et ça change un peu tout, parce qu'il y a des promesses que... Alors, on ne fait pas, on remplit pas la condition. Il y a Jacques qui dit des fois qu'on peut prier, mais pour de mauvaises raisons. Il dit, vous demandez, mais vous demandez avec des mauvais sentiments, ou pour de mauvaises raisons. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez pour de mauvais motifs. Il y a des promesses qui sont conditionnées. J'arrête là l'instruction par rapport à ce pourquoi prier, mais en tout cas, je vous en supplie. Priez que la volonté de Dieu soit faite dans vos vies, dans votre terre à vous, sur vos enfants, sur vos familles, dans votre travail, et vous ne perdez pas de temps. Seigneur, comment prier ? Comment prier ? J'ai lu des livres et des bons livres sur comment prier. Il y a des très très bons livres. Bibles fait un très bon livre sur la prière. Et de temps en temps, on a besoin de relire un livre sur la prière pour nous restimuler. J'ai un problème, vous aussi. Vous savez qu'on a un point commun, et il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui ont ce même point commun avec vous. Vous savez, mon point commun avec vous, c'est que je bosse en dehors du ministère. Et j'ai un vrai point commun avec vous. Et c'est un terrible inconvénient par rapport à la vie de prière. Je sais ce que c'est que d'aller faire des cours le matin à des lycéens, alors que je rêverais de pouvoir être comme mes collègues, d'avoir la journée pour pouvoir passer mon temps à ouvrir la parole de Dieu. Mais je dois me lever le matin tôt et prendre ma route pour aller à Meaux, faire une heure de voiture. Comme toi, tu dois prendre le métro ou la voiture pour aller à ton travail. Et vous savez pas quoi ? C'est beaucoup plus dur du coup d'être régulier, d'avoir un temps de prière, et ça va vous demander peut-être plus. Parce que vous n'avez pas ce temps de décompression dans votre journée. Je pense à tous les mamans là, qui ont des enfants. Ça change la vie, hein. Lorsque vous êtes un prophète en plein temps, et lorsque vous êtes quelqu'un de qui n'avait que juste plein de vie, entre les enfants, le travail, l'église, etc., ça va vous demander une organisation. Et je pense que les femmes ont un grand avantage sur les hommes par rapport à ça, en règle générale. Vous êtes naturellement plus organisés que nous. Mais c'est un problème de devoir s'organiser. Alors, je voudrais vous dire, prier demande de la rigueur. Prier demande de la rigueur. La première chose que Élie va dire, alors c'était un jour où il était surbooké. Je me rends compte que ça me donne espoir parce que même surbooké, Élie trouve le temps de prier. Il a passé une journée de fou et il trouve le temps d'aller prier. Il a passé une journée de fou. Il s'est levé le matin à point d'heure. Il a été desséché par le soleil. Il a vu les prophètes de Baal. Il a eu le feu sur l'autel. Vous savez ce qu'il voudrait faire ? Rentrer dans son lit, allumer la télé et s'endormir. Sauf que Élie va trouver le temps de prier. Élie va trouver le temps de prier avec son planning surchargé. Il va s'éloigner du bruit. Il est dit Élie monta vers le sommet du mont Carmel. Il se prosterna jusqu'à terre. Il va s'isoler, vous voyez. Il pourrait rester, et honnêtement, vous venez d'avoir le plus beau combat de votre vie qui vient d'être gagné. Il y a toute l'équipe qui est en train de chanter, tous les ex-chrétiens super tièdes, tout d'un coup, ils sont super motivés, ils sont là. Élie, président, Élie, président. Il vient d'avoir le feu sur le Carmel. Vous n'avez pas envie de rester avec l'équipe lorsqu'elle vient de gagner? Ben, carrément. À ce moment-là, Élie dit, les amis, je dois vous laisser, j'ai un rendez-vous avec le patron. Ça devait être tentant de rester, d'accepter les louanges des autres. Non, il va avec Dieu, il monte, il se met à l'écart. Comme Jésus dit, lorsque tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Ça demande de la rigueur parce que trouver du temps pour soi, lorsqu'on a un emploi du temps surchargé, c'est difficile. Pour certains, vous avez un appartement, il fait 50, 60 mètres carrés, je ne sais pas combien vous êtes dedans. Même trouver juste une pièce vide, c'est quasiment impossible. J'ai été visiter certains de vos appartements, il y a du bruit partout. Dans certains appartements, il y a 2-3 enfants par chambre. Et on ne peut pas leur demander d'être tout le temps en train de se taire, c'est pas possible. Sinon, vous finirez tyran à la maison. Alors Seigneur, comment je fais pour prier? J'ai pas de chambre. Alors vous savez, demandez à Dieu de l'ingéniosité. Demandez à Dieu de vous aider à monter quelque part. Je ne sais pas si vous avez le droit de prier pour avoir un balcon, mais je pense que si c'est pour la prière, Dieu est capable de vous le donner. Si c'est pour faire des merguez saucisses, peut-être qu'il ne va pas vous le donner. Mais si vous dites, Seigneur, s'il te plaît, et puis, bon, tes enfants, c'est formidable, Dieu te les a donnés. Mais il y a un moment où ils ont besoin aussi d'avoir une maman qui prie. Ils ont besoin d'avoir un papa qui prie. Sois raisonnable, mais prends ce temps-là. Parce que tes enfants en ont besoin, tu en as besoin, ton conjoint en a besoin. Ton Dieu t'attend là-haut. Ton Dieu t'attend là-haut. Fais une petite... Mettez pas des objectifs irréalisables, quoi. Vu l'occupation de ta maison, une heure de silence est inenvisageable. Mais déjà, peut-être demande-leur, voilà, pendant un quart d'heure, mes petits chéris d'amour, papa va s'enfermer dans la chambre, je vous demande juste un quart d'heure de silence. Après, on remet les dessins animés, on remet tout, mais j'ai besoin juste un quart d'heure parce que papa va parler au Seigneur. Et ils seront fiers un jour de dire, papa, il va parler au Seigneur tous les jours, à 18h45 jusqu'à 19h. Et Dieu te visitera. Et si c'est peut-être avant qu'il soit levé, ça serait peut-être encore mieux, mais bon. Samedi, je vis votre vie. Hein. Samedi, j'étais en train de prier. Des fois, on a du mal à se mettre en prière, non? Je veux être vrai ce matin. Il y a des moments où vous allez chercher votre Bible et le ciel, il est plus fermé que d'autres jours. Et samedi, j'y vais et puis on est un petit peu cette culpabilité. On dit, aïe, 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 il est temps que j'aille prier. Donc, on y va un peu forcé. Et on ouvre notre Bible, on commence à prier et le temps de faire le vide dans notre tête avec tous les soucis, on a déjà perdu un quart d'heure des fois. Alors au moment où moi je commence à prier bien, j'entends le zigoto qui me dit « Papa !» C'était Ethan qui revenait, lui il était en pleine forme, il était super motivé, il saute sur le lit « Papa !» Et il commence à faire « Pop !» pour jouer. Et là j'ai envie de dire « Ethan, papa vient juste de réussir à commencer à bien prier !» J'avais oublié de fermer la porte. C'est de ma faute. Prenez ce temps. Amen. Et le temps passe, et je vais être court et j'ai bientôt fini, mais je voudrais juste vous donner un ou deux secrets encore. Regardez Élie, ça je l'ai vu, je ne l'avais pas vu. Je ne l'ai pas vu dans ce texte. J'aime bien qu'au moins une fois par dimanche, vous appreniez un truc que vous n'avez pas vu dans la Bible. Et ce n'est pas toujours le cas, mais je vais essayer. Ce matin, regardez. Il est dit au verset 43. Il dit à son jeune serviteur, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta et scruta l'horizon et revint dire, je ne vois rien. D'accord ? Bon. En fait, j'avais pas pensé à quelque chose. Élie nous a dit la parole, il était monté, d'accord ? Il a un jeune serviteur. Et Élie ne va pas monter plus haut. Où est-ce que je veux vous amener ce matin ? C'est-à-dire que vous avez des fois le choix entre deux occupations. Il y a besoin de deux aspects à ce moment-là. Il y a besoin d'un guetteur, parce que sinon il va prier toute la nuit, il ne saura pas. Et il a besoin, ou surtout il va se prendre une douche, il va être trempé, et ça va être un problème parce qu'il a pour but d'arriver à Jisréel le soir. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui guette. Mais peut-être que Élie n'a plus assez de force pour monter. Ça, c'est mon idée. Je pense que Élie, il a une journée tellement harassante que le Carmel, c'est quand même une grande montagne. Et Élie est du côté de la plaine, du côté de Jisréel. Il est du mauvais côté par rapport à la mer. Et Élie se dit, j'ai pas assez de force peut-être pour monter tout là-haut. Mais par contre, je vais m'arrêter parce que je vais prioriser la prière sur une activité de marche. Est-ce que vous comprenez ça ? Moi, j'ai tendance à privilégier les activités de marche. Quand vous êtes quelqu'un de super actif, vous préférez faire que de demander à Dieu de faire. Et il faut les deux. Il faut qu'il y ait un qui monte et un qui prie. Ne dites pas, il y en a un qui est plus spirituel que l'autre. Je pense que Dieu aime autant ce jeune serviteur. Et son boulot à lui, c'est de monter et de guetter. Mais toi, en tant que Élie, ton boulot, c'est de prier. Alors des fois, vous allez avoir ce dilemme qui est très compliqué. Seigneur, est-ce que je dois agir ou est-ce que je dois prier ? Très difficile, très difficile. Enfin, pour moi, c'est un vrai défi chaque jour de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois déléguer et qu'est-ce que je dois donc déléguer et rester à mon niveau de prière ou qu'est-ce que je dois faire parce que il faut monter, il n'y a personne qui veut monter. Hein. Enfin, si c'est monter pour une petite rando en début de journée, il y a du monde. Mais le jeune garçon, là, il est cuit aussi le soir. Et aller au sommet de la montagne, et redescendre, et remonter, et redescendre. Vous avez compris ? 6 fois, il va le faire. Méprisez pas ce garçon-là. Et moi, je ne méprise pas les mamans qui, peut-être, n'ont pas tout le temps en prière qu'elles voudraient. Parce qu'il y a simplement les couches à changer, le bébé à aller chercher, l'autre à l'école qui pleure, le mari qui a faim. Et Dieu apprécie ça aussi. Mais il y a besoin de prier aussi. Il faut bien discerner quel est ton rôle. On n'a pas tous les mêmes appels, mais on a tous besoin de prier. Et ce jeune homme va monter, et Élie dit, ok, il te reste un peu de jambes, toi, vas-y. Moi, ma priorité, c'est de prier. Je sais quel est mon appel et je prie. Prier demande l'humilité, prier demande la persévérance. Hein. Je dis l'humilité parce que vous avez vu le Élie, hein. Il a la tête dans les genoux. Quelle humilité. Quelle humilité. Des fois, on aime bien prier avec des longues prières bien belles le dimanche matin. Ce n'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande de prier dans ta chambre, dans tes genoux et de dire « Seigneur ». Prier demande la persévérance. Il dit à son jeune serviteur « Monte une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. » À chaque fois, la réponse est « Il n'y a rien. Oh. » Oh là 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 là. Seigneur, t'es dur quand même. Après la journée qu'il a passée, Dieu répond pas à la première prière. Dieu ne répond pas à la deuxième prière. Dieu ne répond pas à la troisième. Là, il y a déjà à peu près plus personne hein, qui continue à prier, sauf Élie. Dieu ne répond pas à la quatrième. Dieu ne répond pas d'ailleurs ni à la cinquième, ni à la sixième. Vous imaginez le gamin qui a monté déjà 6 fois et il n'y a pas d'ascenseur. Hein. Il a monté, il est redescendu. Il dit, patron, si cette fois-ci tu pries, il n'y a rien, je te... Élie, mais quelle persévérance ! Moi, je vous avais dit que j'ai fait une fois le test. C'est drôle, mais c'était... Je me rappelle très bien, j'avais 11 ans. Je vous en ai déjà parlé, certains vont se rappeler, mais... J'ai un problème avec mes oreilles à 11 ans. Enfin, vous savez, on a une tête un peu plus petite et donc les oreilles... qui, elles, ne grandissent pas autant, sortent un peu plus. Et j'avais un collègue dans la classe de CP, ils sont de 6e, ils sont monstrueux en 6e, les jeunes. Et il m'avait mis la honte devant tout le monde avec mes grandes oreilles. Ça. Bref, c'était horrible. Et le soir, j'étais allé comme Élie dans mon lit et j'avais dit, Seigneur Jésus, tu recolles ses oreilles au nom de Jésus. Et 6 fois, je suis allé devant la glace. 6 fois. Et j'ai vécu ce qu'a vécu le garçon là. Parce que je peux vous assurer, au bout de du 4e fois, vous vous levez pour aller devant la glace. Vous en avez vraiment marre. Et contrairement à ce que vous pensez, votre foi n'augmente pas, elle diminue. Et alors le coup de grâce, c'est quand la 7e fois, j'ai regardé ça et pas bougé. Si Seigneur, c'était ta parole. Mais vous voyez, j'ai pris une promesse qui était pour Élie et je l'ai fait pour Yvan. Et ce n'était pas forcément la volonté de Dieu. Donc je me suis usé pour rien. Sauf que Dieu est quand même bon. Parce que ce n'est pas au bout de la 7e fois, mais c'est au bout de la 7e année. Parce que je me rappelle, en terminale, j'en ai parlé à personne. Et en terminale, j'avais quelques copines, etc. Et je dis, vous savez pas quoi, je suis super complexé par mes oreilles. Et elles m'ont dit, mais pas du tout, elles sont tout à fait normales. Et je dis, d'ailleurs, c'est au bout de 7 ans, Seigneur, que tu réponds. Et quand je vois mon petit garçon, je me dis qu'il en a pris aussi pour pas mal d'années. Mais on a le même Dieu. Vous comprenez l'idée? Et la persévérance, c'est dire, Seigneur, ta volonté, elle est là. Tu me donnes la force de tenir. Quelle que soit la réponse, je t'aime, Seigneur. Et je crois que le Dieu qui dirige toutes choses, qui dirige la sécheresse et qui dirige la pluie, la fera tomber en sa saison. Moi, je prie, je coopère avec Dieu. J'arrive à la fin, les conséquences de la prière. C'est beau de voir ce que Dieu fait. Je termine avec ça ce matin parce que le temps a passé. Regardez, on lit la fin du texte. 44, à la 7e fois, le serviteur annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. En hébreu, c'est la paume de la main d'un homme. D'accord? C'est petit, hein? Et Élie lui ordonna, va dire à Acab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. Ah, j'ai oublié de vous dire, quand vous priez dans votre attitude, gardez de l'espoir. Parce que la persévérance est une chose, mais faut rester positif. Et ça, c'est dur. Et je vois dans Élie quelque chose que je voudrais que Dieu travaille dans ton cœur, qu'il travaille dans mon cœur. C'est ce côté, ça s'appelle la foi, enfin, ça s'appelle comme vous voulez. J'appelle ça ce côté positif du chrétien qui prie. C'est qu'après 6 échecs, il s'attend encore à ce que Dieu bénisse. Et il est positif. Et il voit quoi? Il voit un petit nuage. Est-ce que c'est possible de montrer l'image de la main? J'ai fait le calcul. L'image de la main, lorsque vous mettez une paume de la main, ça fait 9 cm. Vous avez un miracle qui fait 9 cm. Et beaucoup pourraient dire, c'est un petit truc qu'il est en train de passer, c'est pas ça qui va m'amener la pluie. Mais Élie voit dans 9 cm un immense miracle. Est-ce que tu sais reconnaître déjà l'action de Dieu dans des miracles de 9 cm dans ta vie? Est-ce que tu sais louer Dieu pour un début, de mini-début, de commencement, d'intervention? Je sais que ceux qui arrivent à tenir la distance avec Dieu sont ceux qui savent se réjouir dans les petites choses. J'ai appris à être heureux dans la disette et dans l'abondance, dans la misère, la pauvreté, dans l'abondance, tout ça. L'apôtre Paul, il sait le faire. Et donc, il sait reconnaître les miracles de 9 cm. Je te mets au défi de reconnaître les miracles de 9 cm dans ton conjoint. Seigneur, il ne change pas le caractère elle-même. Ce n'est pas vrai. Il suffit qu'il y ait un changement de 9 cm dans son caractère pour que tu commences à louer Dieu. Ton fils est dur. Il file un mauvais coton. Il est avec des amis, etc. Mais il a fait l'effort samedi dernier d'aller au groupe de jeunes. Est-ce que tu as été capable de dire, Seigneur, merci pour ce miracle de 9 cm? C'est comme ça qu'on voit les hommes et les femmes de Dieu. Alors, il lui reste quoi? Il lui reste à dire, Alléluia, ma parole, heureusement parce qu'il s'est engagé, Élie, hein. Il avait dit à Acab, prépare ton char. D'ailleurs, est-ce que Acab l'a fait? Non, n'attendez pas que les autres vous croient, hein. Parce qu'il est dit à Acab, alors, quand il a vu, déjà, verset 45, de tous côtés, le ciel s'obscurcissait d'épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Acab monta sur son char. Acab, il n'a pas du tout anticipé, il n'a même pas cru. N'attends pas forcément d'être cru lorsque tu as la foi. C'est normal que les autres ne croient pas. N'attends pas que tes collègues disent « Ah, je suis sûr que Dieu va te bénir. » Tes collègues, ils regardent. Et si la pluie tombe, ils y croient. À ce moment-là, Élie, il est à 27 kilomètres de Jizréel. J'ai besoin d'un témoin. Laurent, 27 kilomètres, c'est un demi-marathon, ça fait quoi à peu près? Plus qu'un demi-marathon. Il est debout depuis 4 heures du matin. Et il va aller courir à demi-marathon. Ouais. Mais où il trouve cette force-là? La main de l'Éternel était posée sur Élie. C'est ce que dit le texte. La main de l'Éternel, remplie de force par l'Éternel. En hébreu, c'est la main de l'Éternel se posa. Élie serra sa ceinture autour de ses reins et courut devant le char du roi Acab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Il va faire 27 kilomètres en courant. Et vous savez pas quoi, le plus grand des miracles, il va aller plus vite que le char d'Acab. Une pensée de Gary Wilkerson que Laurent m'a transmise, disait: te trompe pas avec l'histoire des chars. On peut être tenté de croire que parce que c'est un beau char brillant, neuf, parce qu'il y a des belles roues, parce qu'il y a des bons chevaux, tu peux te laisser porter par ton char. Et en tant que chrétien, des fois, j'ai tendance à dire: Seigneur, donne-moi les moyens. Donne-moi de l'or, donne-moi de l'argent, donne-moi du temps, donne-moi de l'intelligence, donne-moi des connaissances. Et des fois, c'est vrai, le Seigneur le fait. Mais la première personne qui doit te porter dans ta course, ce n'est pas ton char, c'est l'Éternel. La Bible dit: certains s'appuient sur leurs chevaux, d'autres sur leurs chars. Nous, c'est sur l'Éternel que nous appuyons. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas nier. C'est que lorsque un homme ou une femme est rempli de Dieu, lorsque la main de Dieu se pose, après une journée éreintante, un homme ou une femme qui vient de voir l'accomplissement de la prière est inarrêtable. Les conséquences de la prière, tu es inarrêtable. Parce que tu sais que l'Éternel vaut plus que le plus beau des chars. Amen. On ferme les yeux ensemble. Seigneur, je te loue pour tes enseignements, pour cet appel que tu places sur ma vie en vie de prière. Seigneur, tu nous demandes de faire un choix. Alors que Acab, lui, va manger et boire, se restaurer, faire un festin, tu nous appelles à la prière. Seigneur, donne-moi le courage de choisir la prière plutôt que une occupation ou quelque chose qui me permet uniquement de me détendre. Seigneur, fais de moi ce matin un homme de prière. Fais lever dans cette salle des femmes de prière, des jeunes filles de prière, des jeunes garçons de prière. Seigneur, que tu renouvelles la vie de prière de nos anciens. Attire-moi à toi, Seigneur. Est-ce que vous voulez être attiré par Dieu encore ce matin? On peut se lever ensemble dans la maison de Dieu. On va prendre ce chant qui dit: attire-moi à toi. Alléluia, Jésus.
Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner, restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi.
Rien ne peut te remplacer, ça.
Et moi je suis rassuré, yeah. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi.
Dis-le à Dieu.
Sans toi, je ne veux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi. toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, 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 oh. Tu es tout pour moi. Tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout.
Alléluia. C'est dans ta chambre, c'est dans ce lieu secret que Dieu t'attend. Seigneur, on a désespérément besoin de toi. Seigneur, on est tenté de s'appuyer sur nos chevaux, nos chars, nos moyens, notre emploi du temps surchargé pour délaisser ce temps avec toi, et c'est notre erreur. Seigneur, donne-nous la force, le courage de prendre cet engagement qu'a pris Élie. De se mettre à part, de monter sur la montagne et de dire: je vais intercéder, je vais prier, m'aligner avec la volonté de Dieu. Mon Dieu m'attend sur mes genoux. Seigneur, donne à une maman dans ce lieu la force de trouver un temps de prière dans sa journée. Donne à une jeune fille le fait de prioriser sur toute autre activité le temps qu'elle a avec toi. Donne à un jeune garçon, un papa, ce désir ferme de vivre un temps intense de prière avec toi. Seigneur, pardonne-nous ces moments où on t'a mis en second, on s'est laissé déborder. Seigneur, tu es tout pour nous. Seigneur, on a peut-être essayé de vivre sans toi, ça n'a pas marché. On veut vivre avec toi. On croit que tu es le Dieu de l'extraordinaire, le Dieu qui ouvre la pluie dans les terres desséchées. On n'a pas ce pouvoir par nous-mêmes, la prière, c'est là où tu nous attends. Alléluia. Donne du zèle à ton église ce matin, au nom de Jésus. On peut reprendre une dernière fois: tu es tout pour moi, comme pour chanter un chant d'amour à Dieu. Tu es tout pour moi. Vos voix.
Sans toi, je ne peux vivre.
Seigneur,
tu es tout pour moi.
Garde-moi.
Garde-moi près de toi.
Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous donne la force de mettre en pratique la parole. Alléluia. Alléluia, vous pouvez regagner votre place.